Mesdames, messieurs, bonjour. Mon nom est Sébastien Saint-Pierre et bienvenue à cette quotidienne de la vie agricole. Aujourd'hui à l'animation, M. Michel Saint-Pierre et M. Yannick Patelli. Messieurs, bonjour.
Bonjour Michel, animateur.
Oui, bonjour.
Je passe toute la parole.
Ben, c'est bien, je prends des vacances en ce moment. Ben, bonjour Sébastien, on reçoit aujourd'hui deux personnages que vous connaissez bien dans la quotidienne. Talian McCain, qui était avec nous il n'y a encore pas très longtemps, qu'on a en ce moment à quelques reprises sur plusieurs sujets. Il est accompagné aujourd'hui de Nicolas Mesli, que vous connaissez bien aussi, vous l'avez déjà entendu dans la quotidienne et vous le voyez de toute façon sur d'autres plateformes, notamment dans le bulletin des agriculteurs également. Nicolas Mesli, c'est un grand reporter à la base, connu pour son travail de journaliste, son travail de reporter. Il a parcouru le monde et il a été, engagé ou reconnu comme chercheur émérite par le CAPI il y a déjà quelques mois. Et il a travaillé sur un thème qui va vous intéresser parce que c'est le thème d'avenir pour l'agriculture, c'est l'eau. Il a écrit un rapport qui s'appelle « Source d'inquiétude chez les producteurs agricoles et les transformateurs agroalimentaires du Québec », dont on vous parlera certainement dans les prochains mois à nouveau. Et tout ça est appuyé aussi par un texte que vous allez retrouver ce mois-ci, au mois de mai, dans le journal de la vie agricole, signé par Talian McCain. Ça s'appelle « Tenir l'eau du Canada pour acquis, défis et opportunités pour une meilleure gestion ». Alors voilà, on vient de positionner le sujet de la quotidienne. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, la gestion de l'eau, effectivement, de ce qu'on en comprend quand on lit je viens de voir les points saillants du rapport à Nicolas, j'ai vu le texte qu'on publie la semaine prochaine, ces jours-ci, en fait, dans le mois de mai, de Tyler. La gestion de l'eau, c'est un débat du futur. En fait, on a déjà entendu, on a toujours dit la prochaine guerre, ce sera la guerre de l'eau. Ça, on a entendu ça il y a déjà quelques années. Mais je ne sais pas si on l'avait compris à notre niveau. En fait, la guerre de l'eau, on voyait peut-être ça comme les pays assoiffés loin de nous, mais la guerre de l'eau, elle est aussi chez nous, en fait, c'est ça? Nicolas?
Ah, ok. Je sais pas si on peut dire la guerre de l'eau, mais en tout cas, oui. Ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on s'est toujours dit, c'est que le Québec, parmi toutes les provinces canadiennes, elle baigne dans des milliers de lacs, elle a les rivières, on a le fleuve Saint-Laurent, on fait partie d'un grand bassin versant, qui est celui des grands lacs. Ceci étant dit, c'est ce qu'on s'aperçoit en ce moment, c'est qu'avec les changements climatiques, vous avez de plus en plus de conflits entre des utilisateurs. Quels sont-ils? Les agriculteurs, le monde municipal, le monde industriel et aussi les écosystèmes. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, je pourrais appeler ça vous parlez du rapport de l'ICPA, mais en fait, c'est un genre de reportage, c'est d'aller voir sur le terrain une condition, par exemple, où le président de la Fédération des producteurs de pommes de terre du Québec, dans sa région de la Naudière, est aux prises, on le voit, là, ces producteurs-là, cette région-là, est aux prises avec des conflits potentiels d'eau. Et pas potentiels, ça l'est, là, c'est sur place. Donc, la pomme de terre est une production qui a très soif, surtout dans des terres sablonneuses. Et je vous rappelle que ces terres sablonneuses-là de la Naudière étaient vouées à la production de tabac. Et ces producteurs-là ont presque réussi, je vous dirais, une sorte de miracle, c'est-à-dire de produire de la pomme de terre dans une terre sablonneuse. Il faut que vous soyez, au point de vue agronomique, très ferré et ensuite gérer votre eau de façon, je vous dirais, parcimonieuse. Parce que quand je regarde les rendements de ce producteur-là, sont plus élevés que la moyenne au Canada, là, de loin.
Tyler, qu'est-ce qui a amené d'abord le CAPI à donner ce sujet sur la problématique de l'eau? Je sais que vous avez listé dans votre texte que vous avez envoyé en fait des chiffres. On va donner quelques chiffres. 12% des prélèvements d'eau douce au Canada sont destinés à l'agriculture, contre 70% à l'échelle mondiale. Vous parlez aussi de l'irrigation, ça on va revenir tout à l'heure sur l'Alberta, j'ai trouvé ça original aussi ce que vient de faire l'Alberta, mais vous dites qu'il y a seulement 1,56% des terres agricoles du Canada qui sont irriguées, alors qu'on est quasiment à 6% aux États-Unis. Donc là, vous positionnez comme ça quelques chiffres pour nous éclairer. Et quelle est la raison pour laquelle l'Institut canadien des politiques agroalimentaires s'est dit cette année, le thème de l'eau va être un thème central, en fait?
Oui, on croit très fortement que l'eau va être ou est peut-être déjà un enjeu très stratégique pour l'agriculture canadienne, l'agriculture au Québec. Si on pense toujours aux États-Unis ou dans le Moyen-Orient où la sécheresse est en train d'avoir un impact majeur, mais comme Nicolas vient de soulever, L'eau, les enjeux de l'eau sont en train d'avoir déjà un impact ici au Canada. Puis avec les changements climatiques, cet impact-là va être plus important. On croit que la question de comment est-ce qu'on gère l'eau va devenir plus importante. Elle peut être un outil, une meilleure gestion de l'eau peut être une façon d'attirer des investissements dans la transformation agricole, de s'assurer une meilleure production, mais ça prend vraiment... On devrait changer notre façon de penser sur l'eau. On devrait, comme j'avais mentionné, on ne devrait pas le prendre pour acquis. On devrait mieux réfléchir sur la qualité de la quantité d'eau qui est disponible puis comment cette eau-là est utilisée. Mais si on le fait, si on change notre façon de penser, on peut améliorer la performance, le rendement, la durabilité de la secteur agricole canadien.
Est-ce que certaines provinces au Canada sont plus avisées que d'autres? On voit dans le texte que vous publiez au mois de mai où vous nous dites que le gouvernement de l'agriculture de l'Alberta a choisi de mettre dans sa dénomination aussi ministère de l'irrigation. Est-ce que ça veut dire qu'on est un petit peu plus allumé à l'ouest?
Allumé, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais la réalité, c'est que comme ça arrive très souvent au Canada, on a des provinces qui prennent qui ont des politiques qui sont différentes. L'Alberta et le Saskatchewan sont en train d'investir dans l'irrigation. Pour eux, c'est vraiment un outil de développement économique. C'est une façon de mieux protéger leur secteur agricole. Mais les défis de l'eau ne sont pas pareils. Les défis de l'eau dans l'Ouest canadien ne sont pas les mêmes que les défis de l'eau ici, qui sont au Québec. Puis Nicolas vient de faire son reportage sur les défis de Québec qu'il va sortir plus tard cette année, un reportage sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain en Saskatchewan aussi. Puis je pense que ça va vraiment démontrer que n'importe où que nous sommes, l'eau est un défi, mais les défis de l'eau ne sont pas toujours pareils.
Tu disais, Nicolas, aussi en introduction tout à l'heure, bon, tu parlais de la situation de la pomme de terre, mais aussi la situation entre les municipalités et les agriculteurs et les transformateurs, donc c'est ce trio-là. Dans ton rapport, dans ta recherche, tu dis qu'il y a une absence de leadership et de moyens financiers autour des intérêts des divergents des bassins versants, mais surtout, tu dis, la plus grande menace sur les réserves hydriques est l'étalement urbain débridé. Ça rejoint un petit peu ce que tu nous as dit dans Terre d'asphalte, en fait.
Oui, et le lien n'est pas encore fait.
Excuse-moi, précisons Terre d'asphalte pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Terre d'asphalte, qui est un reportage et un livre que Nicolas Mesli a écrit.
Oui. C'est que quand on parle de comment je vous dirais, l'occupation du territoire et la gestion de l'eau sont interreliés. Et quand il n'y a pas de planification, si on peut dire, intégrée, là, d'utilisation du territoire avec la gestion de l'eau. On commence à avoir les inventaires des eaux souterraines, les inventaires des eaux de surface, mais il n'y a pas de lien entre, je vous dirais, par exemple, les organismes de bassins versants au Québec, il y en a une quarantaine, elles ont un rôle, on pourrait dire, de bon garçon. D'essayer de prendre en compte les intérêts de tous et chacun et qu'il y ait une sorte d'unanimité, sans moyens financiers. Tandis que quand vous allez en Ontario, la game, excusez-moi pour le mot, est un peu différente et c'est dû en grande partie à ce qui s'est passé, la tragédie de Walkerton, quand il y a eu des morts d'une contamination d'un puits dans ce petit village-là au Wakoli. Plusieurs morts, des milliers des centaines de personnes empoisonnées. Et ça fait que l'Ontario a décidé de gérer par bassin versant, mais de donner des moyens aux gens en place pour, en fait, être capable d'engager des inspecteurs, être capable d'avoir un peu plus de mordant, ce qui n'est pas le cas au Québec. Donc, quand on regarde, quand vous me posez la question, les municipalités et l'eau et l'agriculture, je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais il y a un plan fédéral d'avoir 100 millions de personnes au Canada d'ici 2100. Mm-hmm. Vous imaginez-vous la ponction de recevoir tous ces gens-là dans des villes, dans l'étalement urbain et tout, si on n'a pas une politique, soit provinciale, soit nationale, pour être capable de protéger et de bien gérer l'eau. Il y a deux choses dans l'eau. Il y a la gestion, mais il y a aussi la gouvernance. Et ça prend deux unités, ou en tout cas deux chaînes de pensée pour arriver à bien faire les choses.
Michel Saint-Pierre, l'occupation du territoire, qui est un sujet fort, mm-hmm. fort intéressant pour l'Institut Jean Garon, on sait qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'occupation du territoire dans votre think tank. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà abordé, le thème de l'eau?
On ne l'a pas abordé sur l'angle, mais on commence à se documenter, puis je pense que c'est grâce aussi à Nicolas qui nous éveille là-dessus. Sachant que l'agriculture est le principal utilisateur d'eau, la production d'aliments sous ces formes, c'est ça qui prend le plus gros pourcentage. Qu'est-ce qu'il est, 75% à peu près de l'eau?
Bien, Michel, si vous me permettez, je vais vous arrêter là-dessus. Ouais. Et vous aurez la source. BioClip vient de publier un inventaire, ou en tout cas des chiffres officiels, sur la disponibilité et l'utilisation de l'eau au Québec, basée sur deux grandes études d'AGECO. Et on pense ça, hein, que l'agriculture est très grosse consommatrice d'eau. Et je vous donne les chiffres officiels. Les activités agricoles au Québec représenteraient en moyenne 13 % de la consommation d'eau, contre 41 % pour le secteur résidentiel et 46 % pour les industries, commerces et institutions. Ça, c'est menée dans 11
J'étais vraiment dans le champ gauche.
Dans les patates, c'est le cas de le dire.
J'étais dans les patates, complètement.
Oui, mais Michel, c'est une erreur. C'est pas une erreur, c'est que c'est le chiffre qui est véhiculé par les grandes organisations internationales, comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international, comme les Nations unies. Or, quand on regarde les chiffres, il faut faire très attention à ça. C'est qu'il faut les prendre avec un grain de sel, si on peut dire.
Est-ce que c'est parce qu'on
au niveau local.
Mais est-ce que c'est parce qu'on cumule aussi agriculture et agroalimentaire quand on donne ces chiffres-là, quand on a des si gros chiffres que ça? Ou?
Ben, dans ce que j'en comprends, c'est qu'on a intégré les transformateurs à la ferme.
C'est ça.
C'est-à-dire, si vous êtes un producteur de comme Vegpro, par exemple, ça fait partie de ces chiffres-là. Si vous êtes un producteur de pommes de terre et que vous lavez vos pommes de terre à la ferme maintenant, est-ce que la sonde de ce monde sont pris en compte? Je ne peux pas vous répondre, mais ça vous donne mm-hmm. une idée des pourcentages. Là.
Oui, Tyler.
C'est important d'être conscient du fait que nous, les Canadiens, sommes des grands utilisateurs de l'eau aussi. Effectivement, le gaspillage de l'eau est très, très, très important. Puis on devrait être conscient du fait que notre niveau d'utilisation est, je pense, que le deuxième plus haut dans le monde. C'est un défi pour les individus puis pour le secteur résidentiel.
Messieurs, on va aller à une courte pause et on revient parce qu'on veut aussi parler des impacts eau-électricité sur l'agriculture et l'agroalimentaire.
La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. Venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous.
Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com.
Bonjour, bienvenue dans la quotidienne avec Michel, Nicolas Mesli, Talon McKen. Nous parlons de la gestion de l'eau. Dans votre rapport, Nicolas Mesli, vous soulignez que le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC, est un peu inquiet du juste prix de l'eau et de l'électricité, en disant que c'est un fondamental en fait pour être concurrentiel. Pourtant, on a la perception, quand on écoute les informations internationales, que l'électricité ici ne coûte rien par rapport à ce qu'elle peut coûter en Europe. Qu'est-ce qui fait en fait cette inquiétude qu'ils peuvent avoir de voir
cette inquiétude, elle vient surtout du fait que le gouvernement Legault, si vous voulez, revise les tarifs d'électricité et en éliminant la régie de l'énergie, a décidé de je vous dirais de tarifer l'eau en fonction de l'inflation. Et en 2021, vous étiez à 6,3 d'inflation. On s'entend que si vous avez, si vous êtes un homme d'affaires, vous devez prévoir des investissements, vous devez vous occuper du marché et tout. Quand on vous annonce une telle mesure, ça coupe un peu les ailes. Le problème n'est pas réglé. Vous avez dû entendre depuis quelques mois que, M. Fitzgibbon, le ministre de l'économie, parle d'attirer ici des entreprises. Il y a tant de projets pour tant d'électricité. Donc, les tarifs, si vous voulez, les tarifs sont à discuter, sont à venir, et tout ce milieu-là, le Conseil de transformation alimentaire du Québec, qui est quand même le premier secteur manufacturier du Québec, là. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est des centaines de milliers d'emplois, c'est un fer de lance de l'économie. Donc, il y a une inquiétude qui est là, par le biais, si vous voulez, si on parle d'électricité, et ça, c'est pas dans mon rapport comme tel, c'est un aparté, c'est que le Québec a décidé de mettre plein les gaz sur la production de fruits et légumes en serre. Donc déjà là, c'est les plus grands acteurs de producteurs en serre qu'on connaît qui bénéficient de tarifs hydroélectriques préférentiels ainsi que des prêts. Le gouvernement a décidé d'aller de l'avant sur une production en serre, à doubler la superficie pour un peu espérer imiter l'Ontario, mais en même temps, c'est à un coût électrique très bas. Donc, est-ce que ces tarifs-là vont rester? C'est une question. Et est-ce que les tarifs pour le reste de l'industrie agroalimentaire, comment ils vont changer? Donc, il y a 2 ans, il y a une grosse représentation du CETAC au gouvernement. Et là, vous allez voir cet automne, mais je pense que ça commence déjà maintenant, mais cet automne, il va être beaucoup question des tarifs dans tous les secteurs de l'économie.
Est-ce qu'on peut dire, comme le veut l'expression souvent entendue, que l'idée de tasser la régie de l'énergie et de se coller sur l'inflation, c'est une fausse bonne idée? Je pense que ça répond tout à fait à cette définition-là. Au départ, ça a l'air tellement simple. Sauf que quand l'inflation atteint un nouveau sommet, là, qui est pas des sommets historiques, mais quand même, quand l'inflation nous sort d'une certaine quiétude au niveau inflationniste, tout à coup, on se dit, ah, oh, c'était pas une bien bonne idée, cette chose-là. C'était même, on faudrait peut-être repenser à ça, et on est en train d'y repenser. C'est ça qu'on fait?
Ben, la régie de l'énergie a joué un rôle de...
Elle existe toujours, sauf qu'elle n'est plus décisionnelle dans la tarification électrique.
Voilà. Mm-hmm. Elle relève directement d'une décision de Québec.
Oui.
Un point également que j'aimerais ça soulever avec toi, Nicolas, dans les points que tu soulèves dans ton rapport, tu parles de la production animale, parce que tu nous parles des cours d'eau en fait, qui sont endommagés en fait, par certaines productions. C'est comme si ton rapport disait que la production animale, entre autres, tu cites la production laitière et la production de viande de porc, c'est quand même d'actualité en ce moment, là. On s'entend que c'est finalement des. Et les productions céréalières intensives, finalement, toutes les grosses productions du Québec, là, que ce soit maïs, soya, le porc, le lait, finalement, sont un peu coupable de la situation des cours d'eau?
Ben, c'est sûr. C'est que si on regarde l'évolution de l'agriculture dans les 20-30 dernières années, on est passé dans des agricultures hors sol, notamment dans la production de porc, de poulet, de volaille en tout cas. Et moi, j'ai ciblé, si vous voulez, une région en particulier qui est la baie Missisquoi. Et la baie Missisquoi, essayez d'aller vous baigner là. Je veux dire, tant du côté... Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un cas transfrontalier. Donc, la responsabilité est d'autant du Québec que du... Si je me rappelle bien, c'est l'État, c'est le Vermont, me semble, en tout cas, que la responsabilité double d'avoir... d'assainir ce cours d'eau-là, lac Champlain. Donc, c'est ça, il y a deux poids, deux mesures, et... quand on s'aperçoit, si vous voulez, les taux de phosphore au Québec, la pollution diffuse, quand j'avais parlé pour cette partie du rapport-là, j'ai parlé à un chercheur très ferré dans le domaine de l'IRDA et qui me disait qu'un tiers de la population, de la pollution des cours d'eau provient de la pollution diffuse animale. Donc, on commence, ou vous l'avez peut-être déjà suivi un peu, on parle beaucoup maintenant de payer les producteurs pour services environnementaux. Mm-hmm. Donc, il y a des programmes, notamment au MAPAC, le programme d'agriculture durable, qui va payer les producteurs, par exemple, pour peut-être élargir leur bande riveraine, avoir des cultures commerciales. Et en plus de ça, vient d'arriver tout récemment, il n'y a pas deux semaines, le ministre de l'Environnement qui vient dire, bon, ben écoutez, là, dans le REA, le régime d'exploitation agricole, on va vous obliger d'avoir des 3 mètres ou 5 mètres de bandes riveraines pour protéger les cours d'eau. Donc, on voit qu'il y a une dynamique. Oui, on a hérité de... Je veux dire, le Québec est la plus grosse province laitière et la plus grosse province porcine, mais c'est venu avec un coût environnemental, d'autant plus que les cultures qui ont été mises en place, notamment pour nourrir le porc et le poulet, eh bien, ça a été maïs, soya.
Mais ça veut dire que les producteurs vont avoir fort à faire, parce qu'on disait en début de quotidienne qu'ils vont être... ils ont un défi vis-à-vis des municipalités qui veulent développer pour avoir des nouvelles taxes. Ils ont un défi vis-à-vis des écologistes qui vont se réveiller, parce que quand on regarde ce qui se passe en Europe, on en parlait un petit peu avant l'émission, on va faire ça court, mais à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, les bassines qui se mettent en place. Hier, on partageait un texte, nous, de Mediapart sur l'Espagne, où là, c'était même un peu plus grave qu'en France, parce que le débat, en fait, entre, j'ai relevé, le ministre de l'Agriculture espagnol, Pedro Sanchez, qui est un peu pris entre l'arbre et l'Écosse, dans le sens que il voudrait bien, en fait, répondre aux besoins d'écologistes, mais en fait, il veut aussi répondre à la machine agro-industrielle. Tout ça est une réalité qu'on va probablement vivre, mais qu'on n'a peut-être pas tout à fait conscience encore.
Effectivement, mais on va la vivre. On le voit déjà, de toute façon, quand vous voyez le ministère de l'Environnement puis le ministère de l'Agriculture, c'est pour l'agriculteur, lui, il sait plus trop donner de la tête. C'est l'environnement qui lui tape sur la tête. En même temps, et je dois le souligner, il y a des agriculteurs qui font office de phare. Quand on regarde ce qu'ils font sur leur ferme, la question que je me pose tout le temps, c'est comment ça se fait qu'on développe, il n'y a pas un feu de brousse pour adopter les mesures que ces gens-là prennent à leur ferme. Je peux vous en nommer des agriculteurs. J'ai fait des reportages là. Tu restes sidéré de la protection de l'environnement, du respect pour la nature. Mais c'est souvent des agriculteurs qui ont extrêmement conscience de la société dans laquelle ils vivent.
Je dirais pour en gérer, Nicolas, effectivement, nous aussi, on rencontre souvent des producteurs qui nous disent. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais vous poser parce que beaucoup de producteurs qu'on va rencontrer au champ, chez qui on fait des reportages, nous disent finalement, on est mené par le ministère de l'Environnement, le MAPAC n'est plus là, ou le ministère de l'Agriculture du Canada n'est plus là. L'un comme l'autre, votre perception, est-ce que réellement, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, la décision dans un gouvernement se prend d'abord au ministère de l'Environnement ou au ministère de l'Agriculture? Ou il y a encore un équilibre?
Est-ce que vous me posez la question
à l'un et à l'autre, à Nicolas et à Tyler, selon votre lecture?
Mais je peux peut-être commencer juste en soulignant la réalité, c'est que le poids du gouvernement, du ministère de l'Environnement au niveau provincial et au niveau national est en train d'augmenter. Pas de question. Je pense pas qu'il y ait un grand débat autour de cet enjeu-là. La question, c'est de comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre? Une production agricole qui est durable devrait être durable d'un côté environnemental, mais devrait être aussi durable d'un côté économique. Puis c'est vraiment de s'assurer qu'on a les meilleurs systèmes, les meilleurs outils en place pour gérer cet impact-là. Des fois, c'est peut-être pas assez équilibré. Des fois, peut-être les ministères de l'Environnement sont en train de peser plus fort sur les balances, mais je crois que c'est à cause de l'impact qu'on a.
Ce que je comprends, Tyler, c'est que dans le thème agriculture durable, on devrait finalement avoir deux volets, agriculture durable sur le plan environnemental, agriculture durable sur le plan économique, et que c'est peut-être cet équilibre-là, des fois, qui fait un peu défaut.
Pour avoir vécu...
Oui, mais on peut ajouter... on peut ajouter aussi durable du côté social. Le gouvernement fédéral parle souvent d'une durabilité économique, environnementale et sociale. Et c'est un défi de trouver un modèle qui répond à ces trois éléments-là. C'est pas simple. Puis tout, je pense que l'eau est un exemple excellent de ce défi-là en action. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on protège l'eau qu'on a, mais comment est-ce qu'on peut aussi utiliser l'eau le plus stratégique que possible, comme j'ai dit, pour attirer les investissements, pour appuyer le secteur de transformation, de produire les aliments quand le sud-ouest des États-Unis ne peuvent pas. Il y a des grandes questions autour de comment est-ce qu'on peut utiliser l'eau d'une façon durable, avec une grande définition de la durabilité.
Michel, 30 secondes. Nicolas, 30 secondes. Et
j'allais dire, pour avoir vécu cette situation-là, environnement, agriculture, dans un bord très précis, je dirais que le ministère de l'Agriculture subit des pressions constamment au niveau producteur. Donc, il doit y avoir un pouvoir qui s'établit, ou des règles qui s'établissent entre environnement et agriculture. Ce qui a existé. Quand, par exemple, l'environnement arrive souvent avec des règles qui étaient non praticables ou qui n'étaient pas réalistes dans le sens agricole, on en parlait. On en parlait et ça permettait de dire, ben voilà, il y a des pratiques qu'on est capable de pratiques agricoles qu'on est capable de mettre en place et qui vont être respectueuses. Donc, c'est un et l'autre, véritablement. Il doit y avoir un dialogue constant entre ces deux ministères-là. Mais l'environnement doit jouer son rôle. C'est absolument important. Donc.
Nicolas?
Moi, je dirais qu'une des conclusions un peu peut-être hâtives du travail qu'on a fait avec l'ICPA, c'est que il faut trouver un moyen de payer et de reconnaître nos écosystèmes. Et j'entends par là soit des tourbières, soit des... Et souvent, ils peuvent servir, ces milieux humides-là peuvent servir de filtre à l'eau agricole pour s'écouler. J'ai vu ça, moi, au lac Saint-Jean, un producteur qui se servait de ça. Donc, si on veut avoir une agriculture durable, il faut tenir compte de nos écosystèmes.
Messieurs, merci beaucoup. C'est tout le temps qui nous reste pour aujourd'hui.
Merci beaucoup.
À très bientôt et on va vous lire dans La Vie agricole.
Merci.